Fréquence Europe, l'émission des radios Judaïca réalisée avec l'Europe Direct de Strasbourg. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Fréquence Europe, l'émission européenne des radios Judaïca, Strasbourg et Bruxelles. Cette semaine se tient à Strasbourg la session plénière du mois d'octobre du Parlement européen. À Bruxelles, se sont tenues les auditions des candidats de la future commission von der Leyen. Si certains commissaires désignés sont apparus convaincants face aux eurodéputés, d'autres n'ont en revanche pas fait l'unanimité. Deux candidats n'ont même pas été auditionnés, refusés par la commission parlementaire des affaires juridiques pour des questions de conflit d'intérêts. Et la candidate française, Sylvie Goulard, a vu sa candidature rejetée par les députés. Sa nomination à la Commission européenne s'annonçait difficile, mais le rejet en a surpris plus d'un. Donc, la nouvelle Commission européenne n'est pas encore en place. Jean-Claude Juncker ne peut donc pas encore laisser la main à Ursula von der Leyen, le temps que les trois commissaires manquants, le français, le roumain et le hongrois, ou la française, la roumaine et la hongroise, on ne sait pas, soient validés par le Parlement européen. L'ordre du jour de la session n'est pas allégé pour autant, avec notamment un débat sur les conclusions du sommet européen des 17 et 18 octobre, notamment avec l'accord sur le Brexit. Un autre débat sur les perspectives d'adhésion de l'Albanie et de la Macédoine du Nord. Pour l'instant, les États sont divisés sur la question. Débat sur l'opération militaire turque en Syrie également, et aussi sur les conséquences de la faillite de Thomas Cook. Donc un agenda très complet. Pour l'occasion, ou à l'occasion de cette session, nous avons le plaisir de recevoir la députée européenne Anne Sander. Bonjour, Madame Sander.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cette émission. Pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, et avant de dialoguer avec vous, je vous propose tout d'abord de présenter votre parcours sous la forme d'un petit portrait.
Anne Sander, bonjour. Vous êtes docteur en économie. Après avoir été l'assistante de Joseph Daul pendant 15 ans au Parlement européen, vous lui avez succédé en 2014 en étant élue sur la liste UMP dans la circonscription du nord-est de la France. Joseph Daul, quant à lui, prenait la présidence du Parti populaire européen, fonction qu'il occupe encore actuellement. Alsacienne, originaire de Haguenau, vous êtes très proche du milieu agricole et venez d'être élue sur la liste LR emmenée par François-Xavier Bellamy. Et vous entamez donc votre second mandat de députée européenne, un mandat qui débute très fort. Vous avez aussi décroché un fauteuil dans la très prisée commission de l'agriculture et venez vous voir confier la négociation pour votre groupe politique du PPE de deux règlements relatifs au futur de la politique agricole commune, la PAC. Vous êtes désormais, comme votre prédécesseur et mentor Joseph Daul, une personnalité incontournable du Parlement européen. Nous n'avons plus qu'à vous souhaiter un très bon deuxième mandat.
On écoutait votre portrait, je vois qu'on a oublié quelque chose, on a oublié de votre poste de questeur. Vous avez été élu premier questeur avec 407 voix, ce qui est un score très important. Vous pouvez nous expliquer, parce que c'est quelque chose, questeur au Parlement c'est un poste important, pourtant très méconnu. En quoi consiste cette fonction ?
Alors, bonjour à tous. C'est vrai que le rôle de questeur, eh bien, permet vraiment d'être au cœur de la machine, au cœur du Parlement européen. Et en quelques mots, le questeur, eh bien, s'occupe de l'organisation interne du Parlement, tout en étant membre du bureau du Parlement. Alors, c'est la question des bâtiments, par exemple. Quels bâtiments, comment les occuper, est-ce qu'il faut de nouveaux bâtiments, construire, acheter. C'est tout ce qui est restauration. C'est des milliers de repas qui sont servis tous les jours au Parlement. Comment est-ce qu'on organise la restauration? C'est comment est-ce qu'on organise les déplacements des députés européens? C'est comment est-ce qu'on communique mieux vis-à-vis de l'extérieur? Donc c'est une multitude de sujets, mais qui sont à la fois interne au Parlement, mais qui concerne aussi eh bien, l'image que le Parlement européen donne à l'extérieur.
Donc si un député est mécontent de certains de ses déplacements, c'est chez vous qu'il viendra se plaindre ?
En partie, oui. C'est vrai que c'est aussi le bureau, je dirais, des réclamations de l'ensemble des députés européens. Moi, je voudrais surtout noter la fonction des questeurs dans le domaine des lieux de travail, comment est-ce qu'on développe Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg. Et donc, en tant qu'Alsacienne, eh bien, c'est vrai que je suis très contente eh bien, de participer à cette prise de décision.
Ben surtout qu'il y aura des challenges avec les bâtiments, puisque je crois qu'à Bruxelles, le bâtiment est quand même très abîmé et qui doit nécessiter d'importants travaux.
Oui, tout à fait. Et donc la question qui se pose, quelle image voulons-nous donner vis-à-vis de l'extérieur ? Nos concitoyens nous demandent aussi de faire des économies. Donc vous voyez, tous ces éléments, eh bien, il faut les avoir à l'esprit.
Alors, rentrons maintenant à nouveau dans le politique de vos fonctions. Donc vous avez été élu, vous étiez 8e sur la liste emmenée par M. Bellamy, et vous avez donc été élu avec en étant 8e sur cette liste. Donc on pourrait dire que c'est de justesse, hein, au final. Finalement, comment vous analysez avec le recul cette élection, cette campagne et votre résultat, même si je pense bien que vous n'allez pas dire oh, c'est super, on a fait 8%, mais comment avec le recul, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui explique ce résultat ?
Alors il y a le résultat au niveau français, il y a le niveau et le résultat au niveau européen. Au niveau européen, eh bien, on remarque un recul des forces politiques classiques, nous le Parti populaire européen, mais aussi les socialistes. Mais je rappelle néanmoins qu'au niveau européen, eh bien, notre famille, ma famille politique, est toujours arrivée en est toujours en première position. Au niveau français, la situation est différente. C'était une campagne très difficile, où nous avions un message, nous avons essayé de faire passer un message très très fort, d'une troisième voie en quelque sorte. Mais en France, le débat finalement s'est résumé à d'un côté le Rassemblement National et de l'autre côté, eh bien, le groupe En Marche. Et c'est vrai que nous avons eu beaucoup de mal à faire passer notre message et à exister entre ces deux familles politiques.
Alors les conséquences de cette élection, on peut aussi peut-être les voir au Parlement. Vous avez parlé donc du PPE qui est quand même en nombre le plus important, mais on voit que ça s'est quand même resserré. Donc les partis se sont resserrés en nombre, notamment trois, hein, le PPE, les socialistes et démocrates, et derrière arrive le parti anciennement appelé les libéraux et démocrates, maintenant appelé Renew, le parti où siègent les députés En Marche, et derrière encore un petit peu plus loin les Verts. Mais ce qui fait que le fonctionnement est plus difficile puisqu'il va falloir trouver des majorités plus largement. Donc j'aimerais savoir si vous pensez que ça peut bloquer, comment ça peut fonctionner. On voit quand même avec les auditions que des fois, c'est pas facile politiquement. On sent qu'il y a des clivages politiques qui sont créés maintenant au sein de cet hémicycle. Est-ce que vous pensez que trouver des majorités à 3, voire à 4 est possible ?
Bien, il faudra travailler beaucoup plus, mais ce qui est certain, c'est que ça va être beaucoup moins facile que dans le mandat précédent, ou pendant une bonne partie du mandat, alors pas jusqu'à la fin, mais en tout cas pendant la première moitié du mandat de 2014, eh bien, nous arrivions à travailler, nous, le PPE, avec les socialistes. Sur la fin, c'était quand même plus difficile. Là, la situation est totalement différente, puisque ces deux familles politiques n'ont plus de majorité absolue à eux deux. Donc, il va falloir négocier, trouver des compromis, et c'est certain, ça va être beaucoup plus difficile, et l'issue est vraiment méconnue. Je pense que sur chaque texte, il faudra construire une nouvelle majorité. Ce qui était quand même déjà le cas sur un certain nombre de sujets lors de la mandature précédente. Si vous prenez par exemple tous les sujets liés à l'Europe sociale, par exemple pour mieux encadrer le transport routier, on avait de véritables clivages, non pas seulement politiques, mais c'était des clivages géographiques entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, par exemple. Ces clivages géographiques, eh bien, nous allons les conserver, mais en plus, nous allons avoir eh bien, des majorités politiques à construire au coup par coup sur chaque texte. Et c'est vrai que ça ne va pas être facile.
Et on voit qu'il n'y a pas vraiment d'idée de programme commun, puisqu'on voit sous l'audition, par exemple, de Sylvie Goulard, on voit Emmanuel Macron qui s'est plaint du manque de, non pas du fair play, mais qu'il y avait une sorte d'accord général et que finalement sa candidate a été refusée alors que d'autres ont été acceptés. Est-ce que vous interprétez de la même manière le rejet de Sylvie Goulard comme étant une sanction plutôt politique qu'une revanche du PPE et comme le présente le président de la République?
Écoutez, je ne le crois pas. Je vous rappelle que à l'exception du groupe d'Emmanuel Macron et de Sylvie Goulard, à l'exception du groupe Renew, eh bien, les autres familles politiques se sont toutes opposées à la nomination de Sylvie Goulard. Donc, je ne vois pas pourquoi, eh bien, ce serait le PPE qui serait dans la ligne de mire du président de la République. Moi, je crois surtout, eh bien, que ça a été l'occasion de montrer que le Parlement avait gagné en maturité et qu'il ne se laissait pas imposer deux candidats. Eh bien, Emmanuel Macron, depuis qu'il est président de la République, a essayé de passer en force, toujours contre le Parlement européen. C'était déjà le cas quand il a essayé de faire passer les listes transnationales contre la volonté du Parlement européen. C'était de la même manière, il est passé en force sur la question du Spitzenkandidat. Et là encore, il a voulu passer en force avec une candidate. Eh bien, on considérait que Sylvie Goulard n'avait pas le profil parce qu'il y a les affaires en cours, donc qu'elle n'a pas le profil pour être ministre en France. Emmanuel Macron a voulu l'imposer au niveau européen. Eh bien, de manière très très large, les familles politiques du Parlement européen ont considéré que ça pouvait ternir l'image de la Commission européenne et donc se sont opposées à cette nomination. Et je crois que c'est un acte fort et très mature de la part du Parlement européen.
Surtout que ce système des auditions n'a pas été très médiatisé en France, mais c'est un système très démocratique finalement, où c'est le commissaire qui se présente et qui répond aux questions des députés.
Tout à fait. Moi, je suis membre de la Commission de l'Agriculture. Nous avons auditionné une première fois le candidat à la Commission de l'Agriculture. Nous avons considéré que sur le fond, il n'était pas suffisamment prêt. Nous lui avons demandé de passer une deuxième audition. Et la deuxième audition a été beaucoup, beaucoup mieux sur le fond, où il a apporté de vraies réponses, à nos questions. Et donc, nous lui avons donné notre accord. Donc, je crois que le Parlement européen joue pleinement son rôle en tant que représentant des citoyens. Nous allons, nous auditionnons, nous évaluons ces commissaires européens. Je crois que un certain nombre d'États membres devraient s'en inspirer, notamment lorsqu'ils nomment les ministres.
Alors, on va rester sur l'agriculture. Vous siégez désormais dans la commission agriculture, comme on l'a dit en début de cette émission. Mais en plus d'y siéger, vous avez hérité de ce qu'on peut appeler un travail sur deux rapports sur la réforme de la PAC. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se joue réellement dans cette réforme de la PAC et dans ces rapports que vous êtes chargé de travailler ?
Alors, l'élément sans doute qui, pour moi, est le plus important, c'est de faire en sorte que cette politique agricole commune, qui est une véritable politique européenne, la première politique totalement intégrée au niveau européen, reste européenne. Et là, il y avait une volonté de la part de la commission précédente de renationaliser la politique agricole.
Concrètement, c'est de baisser les budgets
Au-delà de la question du budget qui est essentielle, parce que si on veut une PAC forte, il faut effectivement des budgets, des financements importants. Non, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de faire en sorte qu'on ait 28 PAC différentes, des règles nationales plus que des règles européennes. Et donc, moi, ma volonté, c'est vraiment de faire en sorte que les règles pour la politique agricole, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, les sanctions, les incitations, que ce soit des règles européennes pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence au sein même de l'Union européenne. Parce que si vous laissez la main aux États, il y en a qui vont autoriser certaines pratiques, d'autres pratiques, et ça va complètement fragmenter ce marché européen. Donc ça, c'est la première volonté. La PAC doit être européenne. La deuxième chose, c'est que la PAC doit être économique. Ça doit être une aide aux revenus des agriculteurs. Les agriculteurs, on leur demande, ils remplissent beaucoup de missions. La première mission, c'est de fournir une alimentation saine aux Européens. C'est aussi d'assurer notre souveraineté alimentaire. Les agriculteurs entretiennent nos paysages. Les agriculteurs, contrairement à ce qu'on peut dire et lire parfois, sont aussi engagés pour le climat et pour l'environnement. Ils peuvent avoir et doivent avoir un rôle plus important encore à jouer dans ce domaine-là. Pour toutes ces missions qu'on demande aux agriculteurs et qu'ils remplissent, il faut qu'ils puissent vivre de leur activité. Donc il faut que la PAC soit économique, il faut qu'elle crée de l'emploi et de l'activité dans les territoires.
Donc ce rapport, vous avez combien de temps pour le travailler, le faire voter ? Ces deux rapports, je dirais. Ces deux règlements.
Ces deux textes sur les trois de la réforme de la PAC. Alors, ces textes ont déjà été votés dans la mandature précédente. Là, ce que nous voulons faire, c'est laisser la possibilité aux nouveaux députés européens, eh bien, de s'exprimer et d'apporter leur contribution à cette politique agricole commune. Et moi, j'espère que ce seront des positions raisonnables. Parce que vous l'avez dit, on a au sein du nouveau Parlement européen, on a les Verts, les écologistes qui sont rentrés de manière plus importante dans le Parlement européen. On sent bien cette volonté d'une Europe plus vertueuse et je partage complètement les ambitions de nos concitoyens sur ce sujet-là. Mais il faut qu'on soit extrêmement prudent pour ne pas opposer les agriculteurs à l'environnement. Mais il faut que dans ce qu'on décide, eh bien, on permette aux agriculteurs, parce qu'ils ont un rôle à jouer essentiel pour le climat et pour l'environnement, il faut qu'on leur donne les moyens de le faire plutôt que de les sanctionner. Donc ça doit être une politique incitative, équilibrée, ambitieuse, mais en se donnant les moyens de le faire.
Et il y a un autre événement beaucoup plus, on va dire, plus général, mais qui peut aussi avoir une influence sur les activités et sur les politiques de l'Union, c'est le Brexit. Vous pensez que ce feuilleton se terminera encore avant le 31 octobre? Vous faites partie des personnes qui imaginent finalement qu'on arrive au bout, ou vous êtes comme tout le monde, vous ne savez pas?
Écoutez, je n'ai pas de boule de cristal, et bien malin celui qui pourra prévoir la suite du feuilleton dans les prochaines heures ou dans les tout prochains jours. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est vraiment rocambolesque. Royaume-Uni, où règne réellement le chaos à tous les niveaux. Cela étant, nous, au niveau du Parlement, nous continuons à travailler pour bien organiser la sortie du Royaume-Uni si un jour elle se produit.
Et comme les commentateurs le font souvent, le disent souvent, vous constatez aussi, vous, qu'il y a une vraie solidarité, ou en tout cas, les 27 sont bien restés en accord sur ce Brexit. Il n'y a pas de dislocation aujourd'hui avec la durée, avec le temps, avec la lassitude, on pourrait dire, de cette négociation.
C'est tout l'enjeu. C'est arriver à rester unis. C'était une véritable crainte au lendemain du référendum au Royaume-Uni. On se disait les différents États membres vont se diviser. Nous sommes arrivés à rester unis et c'est là tout l'enjeu. Parce que le risque aujourd'hui, eh bien, c'est qu'aux portes de l'Union européenne se développe une zone de moins-disant, sociale, fiscale, qui pourrait attirer un certain nombre d'entreprises, par exemple. Le Royaume-Uni pourrait tenter aussi de passer des accords bilatéraux avec certains des membres de l'Union européenne. Donc, il faut que nous restions unis pour protéger, eh bien, ce que nous avons de plus précieux, c'est notre marché commun, c'est notre manière de vivre et d'avancer au niveau européen, et c'est ce que les Anglais rejettent. Donc vraiment, restons unis jusqu'au bout, et puis soyons derrière Michel Barnier, qui est notre chef de file et qui a réalisé un travail phénoménal.
Alors j'aimerais terminer cette émission aussi par cet élargissement de l'Union qui pourrait encore être un peu plus grand. Vous parlez, vous, de rester unis. Il y a des États membres. Aujourd'hui, il y a des questions qui se posent sur l'ouverture de négociations, notamment avec deux pays, l'Albanie et ce qu'on appelle aujourd'hui la Macédoine du Nord. Donc ces deux pays-là aspirent à entrer dans l'Union européenne. Ont de poser leur candidature qui a été acceptée, mais les négociations tardent à s'ouvrir. Et lors du dernier Conseil européen, on a vu les divisions à nouveau des Européens, cette fois-ci non pas sur le Brexit, mais sur cette idée d'élargissement. Il y a une scission entre, on va dire, entre les Français et les Allemands, mais aussi entre l'Est et l'Ouest. Comment vous voyez, vous, et quel est déjà votre avis, vous, sur cette demande de négociation d'adhésion et d'intégration de ces deux pays?
Écoutez, moi, en tant qu'élu Les Républicains, eh bien, ma position est claire et l'a toujours été. Ça fait des décennies que nous sommes cohérents en disant maintenant, alors pas d'élargissement, alors la Turquie, et sur le reste, pas d'autre élargissement. Nous sommes aujourd'hui à 28, demain à 27. On a déjà beaucoup de mal à s'organiser entre nous, à avancer entre nous. Donc, essayons d'abord de bien organiser, de bien réussir l'intégration de l'ensemble des pays plutôt que d'aller vers de nouveaux élargissements. Nous ne sommes pas favorables à de nouveaux élargissements.
Je vais passer la parole dans le cadre de Catch the Eye.
Catch the Eye.
Catch the Eye.
We now move to Catch the Eye.
Alors pour finir cette émission un peu plus légèrement, je dirais, j'aimerais entamer une nouvelle rubrique, une nouvelle rubrique que j'ai appelée Cat's Eye, comme ce qui existe au Parlement. C'est un moment aussi qu'il y a dans la session plénière ici à Strasbourg. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Cat's Eye au Parlement européen ?
Alors, au Parlement européen, le Cat's Eye, c'est vraiment l'occasion, d'attraper en quelque sorte la parole. Vous savez que nous, chez nous, tout est très très organisé. Vous avez un temps de parole qui est prévu longtemps à l'avance. Vous avez une minute trente pour intervenir. Et le Cat's Eye, c'est vraiment vous attraper en quelque sorte la parole. C'était pas prévu à l'avance, donc c'est plus spontané.
Ouais, et là, ce sera l'idée, c'est d'avoir des petites questions courtes sur vous, sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Des petites questions courtes, des réponses courtes. Alors j'ai d'abord une petite question, mais je me doute de la réponse. Votre modèle en politique, est-ce que vous avez un modèle en politique ?
Ah, mon modèle, c'est Joseph Daul, avec qui j'ai travaillé pendant des années, qui est un très grand Européen, président du Parti populaire au niveau européen. Joseph Daul, qui n'est pas connu du grand public partout en France, par exemple, mais qui est connu dans toute l'Europe et qui a fait un travail remarquable, notamment parce que c'est quelqu'un qui est discret.
Alors la deuxième question, cette fois-ci on va rentrer sur des questions encore un peu plus personnelles. Ici au Parlement européen, on est dans le multilinguisme pur, hein, chacun, on sait qu'il y a des interprètes, mais vous, en dehors du français, quelle est votre langue la plus appréciée, avec laquelle vous vous exprimez le mieux ou celle que vous préférez ?
Alors, celle que je préfère, c'est le dialecte alsacien, parce que ça me rappelle d'où je viens. Vous disiez Haguenau tout à l'heure dans votre portrait, en réalité c'est un petit village qui s'appelle Hollungen, c'est là où j'ai grandi, et c'est chez moi, et on parle alsacien à Hollungen. Donc voilà, ça c'est anecdotique, sinon je parle anglais, je parle allemand.
Alors restons alors dans la région peut-être. Votre plat préféré, est-ce que c'est un plat régional ou un plat plus européen ?
J'aime beaucoup les knacks et les bretzel. C'est vraiment mon plaisir et très souvent à la fin des réunions politiques, le soir, partout en Alsace, eh bien, vous avez soit des knacks, soit des bretzels, et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup.
Et je terminerai avec une dernière question, cette fois-ci un peu plus culturelle. Est-ce que vous avez un film, un livre, une expo que vous auriez vu récemment et que vous voudriez conseiller à nos auditeurs ?
Alors, j'ai pas tellement le temps pour des sorties culturelles, mais il se trouve quand même que j'ai emmené mes enfants au cinéma la semaine dernière pour aller voir un très beau film qui s'appelle « Donnez-nous des ailes ». Et j'ai trouvé que c'était apaisant, qui donnait des perspectives aussi sur justement notre responsabilité envers l'environnement, mais aussi les liens familiaux.
C'est une histoire
d'un père, de son fils, qui essaie de sauver une espèce d'oiseau. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très très bien, parce qu'il y a ce côté responsabilité qu'on donne aux enfants, mais aussi les liens familiaux. Voilà, donc tout y était, c'était vraiment un très beau film.
Ben merci Anne Sander pour nous avoir consacré du temps et d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Fréquence Europe. À bientôt.
Merci.